Je vous propose d'ouvrir cette séance et de procéder à l'appel à l'arpillère présent. Balestra Claude, Balestra Johan excusé, représenté par Jean-Sébastien Piel, Beaubreuil Bernard, Baudet Hervé, Chabot Mireille, Chazla Laurence, Chazelle Anne-Sophie, Coindo Lucien, Compère Béatrice, Coucou Nadège excusé, représenté par Aurabelle Pesquet, Crossy Eliane, Dauvergne Frédéric, Desroches Bernadette, Gandois Philippe, Gerbo Alex, Granet Thierry, Ladune Clément, Laurentier Noël excusé, représenté par Mes Soins, Le Kiev Didier, Maladium Bruno, Murat Laure excusé, représenté par Lucien Coindo, Pesquet Aurabelle, Pichon Joël excusé, représenté par Hervé Baudet, Piel Jean-Sébastien, Pic Clémence, Razoa Fenozoa Esther, Roi Didier excusé, représenté par Philippe Gandois, Seba Julia, Simono Christelle, elle va nous rejoindre, elle a quelques minutes de retard, Tarno Nathalie excusé, représenté par Clémence Pic, Tricard Stéphanie excusé, représenté par Bernadette Desroches, Vacheux Christophe. Dans l'ordre du tableau, secrétaire de séance, notre collègue Eliane Crossy.
Je vous fais passer la liste d'émargement de la dernière séance du Conseil. Je ne cite pas de nom, mais les noms qui sont barrés n'ont pas à signer dans les cases qui sont barrées. C'est pour éviter qu'il y ait des problèmes après sur le registre. Non, Didier, je n'ai cité aucun nom.
Bien, donc à l'ordre du jour de cette séance, nous avons la validation du compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 27 mai 2021. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Pas de remarques, pas de questions. Donc je vous propose au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Adopté à l'unanimité. Le premier rapport concerne la dématérialisation de la transmission des actes d'état civil. Notre collègue Hervé Baudet.
Dans le cadre des missions du département de la Haute-Vienne sur la protection maternelle et infantile, le département souhaite procéder à une collecte des données issues des extraits d'actes de naissance et des copies des actes de décès des enfants de moins de 6 ans, selon les dispositions de l'article R 2112-21 du Code de la santé publique. Le transfert des données s'effectuera par voie dématérialisée sur une plateforme web sécurisée et administrée par le département de la Haute-Vienne et se conformera à la réglementation en vigueur applicable au traitement des données à caractère personnel.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions, Monsieur Piel?
Monsieur le maire, mes chers collègues, puisque le schéma précisant les modalités d'organisation des échanges entre la ville et le département se veut être détaillé et exhaustif, il me semble nécessaire de rajouter une étape pour garantir la sécurité des données. En effet, il faut s'assurer que le fichier CSV créé par les agents de la mairie soit supprimé une fois transmis sur la plateforme web. Un fichier CSV étant un fichier texte écrit en clair, il faut éviter tout stockage d'un tel fichier en dehors de l'utilisation spécifique pour lequel il est destiné. Il est également fait mention que la fonction de délégué à la protection des données, DPD ou DPO, est une prestation externalisée. Je n'ai pas trouvé mention de la société faisant cette prestation. Je l'ai certainement manqué dans les lignes du budget, mais je ne me rappelle pas en avoir vu le coût non plus. Il me semble utile que le prestataire soit mentionné dans ce protocole et il me semble nécessaire que l'information soit disponible quelque part sur le site de la mairie. À titre personnel, en tout cas, cette information m'intéresse beaucoup. Merci.
Le délégué, ça sera le cabinet Gaïa, puisqu'on a eu un souci avec notre précédent cabinet où le monsieur qui s'occupait en fait de cette mission-là est décédé brutalement. Donc on a dû ressolliciter un autre cabinet, donc c'est le cabinet Gaïa. Et pour la sécurité, c'est le département qui l'a en charge.
Pour la sécurité du fichier, c'est vraiment le fichier que la mairie envoie. Donc c'est une fois qu'il est envoyé, il faut qu'il soit bien effacé. Comme il y a plein de choses qui sont notées dans le schéma, sauf ce bout-là, ce serait pas mal de le rajouter.
C'est prévu simplement que oui, le cabinet Gaïa a juste repris les données, puisque la personne qui voilà, c'était le cabinet Thémis, et cette personne était toute seule. Et donc, quand elle est décédée, il a fallu passer par le tribunal pour pouvoir aller après redésigner quelqu'un d'autre, puisque la confidentialité était telle que les données qui avaient été récoltées n'ont pas pu être réouvertes malgré le décès de la personne qui tenait le cabinet Thémis. J'ai plus son nom en tête. Et donc, c'est le cabinet Gaïa qui prend la suite. Voilà, donc, on n'a pas eu le temps de le marquer, mais on va le mentionner pour la prochaine fois. Bien, par rapport à cette délibération, est-ce qu'il y a donc des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité, je vous en remercie. Notre collègue Didier Lequièvre, concernant la cotisation au COS.
Considérant que l'action sociale est une mission obligatoire des collectivités et établissements publics intercommunaux envers le personnel et que la commune de Saint-Junien cotise au centre de gestion de la fonction publique de la Haute-Vienne, les prestations du comité des œuvres sociales, association loi 1901 placée auprès du centre de gestion, répondant à cette obligation d'action sociale, il est proposé au conseil municipal de voter les nouveaux montants des cotisations à compter du 1er janvier 2021, adoptés en assemblée générale du 20 mai 2021.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions, des abstentions, des votes contre ? Adopté à l'unanimité. Notre collègue Philippe Gandois concernant l'unité centrale de production alimentaire.
Vu la délibération du conseil municipal en séance du 9 décembre 2019, prenant acte du coût prévisionnel des travaux et des équipements de cuisine portés à 2 054 186,37 euros hors taxes après attribution de l'ensemble des contrats liés à l'opération. Considérant l'engagement des travaux à partir du 15 octobre 2019, les différents reports consécutifs à la crise sanitaire et les retards dans l'exécution des travaux liés principalement à des difficultés d'approvisionnement des matériaux nécessaires à la fabrication et à la mise en œuvre de l'ossature bois de la construction. Vu le compte-rendu de chantier en date du 25 mai 2021, diffusé par le maître d'œuvre qui précise l'avancement des travaux pour chacun des 14 lots et planifie les opérations préalables à la réception des travaux à partir du 13 juillet 2021. Vu les projets d'actes modificatifs présentés par le maître d'œuvre avec les fiches techniques justificatives des travaux supplémentaires ou complémentaires, ainsi que les ajustements générant des plus et moins-values à certains lots afin d'optimiser le bilan financier de l'opération. Vu l'avis favorable émis par la commission des marchés à procédure adaptée en séance du 3 juin 2021 sur la passation des avenants au contrat au vu des justifications apportées, considérant les travaux modificatifs référencés au bilan d'opération qui se traduisent par un besoin financier complémentaire à l'opération d'un montant global hors taxe de 33 953,12 euros, soit une variation de plus 1,65%. Considérant le respect des engagements contractuels par l'équipe de maîtrise d'œuvre sur la variation du coût des travaux lors de la réalisation de l'équipement, considérant l'évolution financière du coût prévisionnel des travaux porté après intégration au contrat des avenants à 2 088 139,49 euros, considérant le plan prévisionnel de financement de l'opération qui prévoit la participation financière du Conseil départemental de la Haute-Vienne et de l'État dans le cadre de la dotation pour le soutien à l'investissement local, il vous est proposé d'autoriser le maire à signer les actes modificatifs générant une augmentation financière à l'opération de 33 953,12 euros hors taxes et de solliciter le concours financier des cofinanceurs sur ce complément de programme.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Je rappelle qu'on est sur un dossier qui, à l'origine, était à 2 054 186,37 euros. Donc c'est certes une variation, mais qui est malgré tout minime sur le montant de ce chantier-là. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité ? Le dossier suivant concerne la création de la commission de délégation de services publics. Donc, comme je vous en avais fait part lors du précédent conseil, le Code général des collectivités territoriales prévoit la création d'une commission dénommée commission de délégation de services publics afin qu'elle analyse les dossiers de candidature, qu'elle dresse la liste des candidats admis à présenter une offre et qu'elle émette un avis sur les candidats qui seront invités à participer aux négociations par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de services publics. Vous avez bien compris que c'est dans le cadre du dossier du crématorium. Donc, pour une commune de 3500 habitants et plus, cette commission est composée de l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de services publics, c'est-à-dire du maire ou son représentant, qui préside la commission, et de 5 membres de l'Assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Donc, nous nous sommes mis d'accord au préalable avec les différents groupes qui composent le conseil municipal. Donc, je vais vous passer les différents détails. Il vous est proposé de voter sur une seule liste, avec en titulaire Bernard Beaubreuil, Eliane Crossi, Thierry Granet, Lucien Coindeau, Nathalie Tarnot, en suppléant Claude Balestra, Didier Lequièf, Laurent Chazelas, Laure Murat, Jean-Sébastien Piel. Est-ce qu'il y a des questions, des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité? Je vous en remercie. Nous poursuivons avec notre collègue Eliane Crossi concernant les conventions de servitude pour l'implantation d'ouvrages de transport d'électricité.
Considérant le programme de renouvellement d'une ligne électrique haute tension envisagé par Enedis en vue du raccordement du poste Bellevue 2 sur la commune de Saint-Julien, considérant les parcelles concernées pour faire établir à demeure une canalisation souterraine ainsi que ses accessoires sur la dite parcelle désignée sur une longueur totale d'environ 39 mètres sur la parcelle cadastrée AX81 6 avenue de Précoy. Considérant que ces ouvrages n'empêchent pas l'usage du foncier concerné et que la réalisation des 10 ouvrages devra respecter les prescriptions posées par la commune de Saint-Julien, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir délibérer sur les conventions présentées par la société Enedis.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions, des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité? Notre collègue Mireille Chabot concernant l'élaboration d'un nouveau règlement local de publicité.
La commune de Saint-Julien était dotée d'un règlement local de publicité en date du 27 juin 2003. Considérant la loi du 10 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et plus particulièrement l'article 581-14-3 du Code de l'environnement qui prévoyait que les règlements locaux de publicité en vigueur à la date de publication de la loi restaient valables jusqu'à leur révision ou modification pour une durée de 10 ans. Considérant la loi 2020-734 du 17 juin 2020 relative aux diverses dispositions liées à la crise sanitaire qui autorisait un report de 6 mois de la caducité des anciens règlements locaux de publicité, considérant la loi Allure 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové qui avait consacré les modalités de transfert de la compétence PLU aux intercommunalités, tout en prévoyant la possibilité aux communes membres des EPCI de s'y opposer par l'effet d'une minorité de blocage. Considérant les délibérations de la commune de Videx en date du 24 octobre 2020, la commune de Chéronac en date du 31 octobre 2020, la commune de Saint-Brice en date du 21 novembre 2020, la commune de Saint-Victurnien en date du 1er décembre 2020, la commune de Vert en date du 4 décembre 2020 et la commune d'Oradour-sur-Glane en date du 21 mai 2021, la minorité de blocage est atteinte. La commune de Saint-Julien peut donc prescrire l'élaboration d'un nouveau règlement local de publicité avant le 1er juillet 2021. La commune de Saint-Julien souhaite poursuivre la préservation et l'amélioration de son cadre de vie en limitant et en réglementant les implantations des dispositifs publicitaires enseignes et préenseignes. Afin de protéger le patrimoine bâti et naturel, le centre ancien, mais aussi le centre-ville dans son intégralité, afin d'améliorer la qualité des zones d'activité et de protéger les entrées de ville, il vous est donc demandé d'approuver l'élaboration d'un nouveau RLP.
Je remercie le rapporteur, donc je précise qu'on n'est qu'au début. Là, on lance l'opération et après, il y aura, comme d'habitude, la commission qui sera associée au travail. Mais nous attendions de savoir si on allait vers un PLUI au niveau de la communauté de communes, puisque si on avait été vers un PLUI, c'était à la communauté de communes à mettre en place ce règlement local de publicité. La minorité de blocage ayant fait qu'on ne va pas vers un PLUI, c'est à nous qu'il appartient maintenant de lancer cette opération. pour renouveler notre règlement de publicité. Est-ce qu'il y a des questions, des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité? Toujours notre collègue Mireille Chabot pour les tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure.
En vertu de l'article L2333-6 du Code général des collectivités territoriales, la commune de Saint-Junien a instauré la taxe locale sur la publicité extérieure par délibération en date du 27 septembre 2017. La taxe concerne les supports publicitaires fixes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique et existants au 1er janvier. Une taxation pro rata temporis est prévue pour les dispositifs créés ou supprimés au cours de l'année d'imposition. Les délibérations relatives à la TLPE doivent être prises au plus tard le 1er juillet de l'année qui précède celle de l'imposition. La fixation des tarifs applicables est effectuée suivant les conditions prévues par les articles L2333-9, L2333-10, L2333-12 du Code général des collectivités territoriales et dans la limite des plafonds communiqués chaque année par le ministère de l'Intérieur. Les tarifs maximaux applicables en 2021 sont ceux fixés par l'article L2333-9 du Code général des collectivités territoriales. Les tarifs de la taxe s'appliquent au mètre carré et par an à la surface exploitée hors encadrement du support. Le redevable de la taxe est l'exploitant du support, le propriétaire du support ou celui dans l'intérêt duquel le dispositif est réalisé. La taxe est payable sur la base d'une déclaration effectuée par l'exploitant du dispositif publicitaire auprès de la mairie avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les supports qui existaient au 1er janvier, dans les 2 mois suivant la création ou la suppression des dispositifs. La taxe est payable à partir du 1er septembre de l'année d'imposition. L'article L2333-15 du Code général des collectivités territoriales prévoit le contrôle et les sanctions applicables en cas de manquement ou d'infraction aux dispositions prévues. Donc, on vous propose de retenir les tarifs proposés, qui sont les mêmes que l'année dernière. Donc, je ne vais pas vous les relire, parce que c'est un tableau un peu pas évident. Donc, voilà, on n'augmente pas les tarifs par rapport à cette année. Ils n'ont pas été augmentés l'année dernière non plus.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Allez-y.
Juste en fait pour savoir, j'ai bien compris que vous ne manquiez pas, mais juste.
Attendez, faut un tout petit peu plus fort parce qu'avec le masque on n'entend pas.
Je voulais juste savoir, j'ai bien entendu que les prix n'étaient pas augmentés par rapport à l'année dernière, mais je voulais savoir pourquoi les tarifs maximum n'étaient pas utilisés de façon générale. Les plafonds maximum, en fait. S'il y avait une raison particulière.
Et puis, l'idée, c'est aussi de ne pas pénaliser, parce que là, il faut bien se dire que ça ne touche pas que les grandes surfaces. Bon, les grandes surfaces, c'est une chose, ça, mais ça touche aussi des commerces qui ont éventuellement plus de 7 mètres carrés d'enseigne, parce que quand on parle de 7 mètres carrés, c'est tout ce que vous pouvez avoir, c'est pas seulement l'enseigne que vous avez au-dessus du magasin, c'est tout ce que vous avez d'imprimé sur la porte, enfin sur la vitrine et sur le magasin. Donc vous pouvez très vite vous retrouver à 7 mètres carrés sans avoir un grand magasin. Donc c'est pour ça qu'on essaye, on avait essayé, c'était l'esprit un peu de la commission, mais Mireille, tu me reprends si je me trompe, hein. C'était l'esprit de la commission de dire qu'à un moment donné, on essayait de ne pas mettre en difficulté aussi ces commerces-là. Alors, 7 mètres carrés, l'exonération, ça veut dire qu'on écarte à peu près tous les petits commerces qui sont en centre-ville, hein, ça peut aller très très vite. Quand vous regardez au-dessus d'un commerce, vous avez déjà bien souvent des bandeaux qui font 1 mètre carré 50, 2 mètres carrés, si vous comptez ce qu'il y a sur les vitrines et sur les portes, parce que tout est, dès lors qu'il y a des lettres, tout est pris en compte pour le calcul. Donc c'est pour cette raison. Et on était à un moment donné au tarif maximum, ensuite les tarifs ont dû évoluer au niveau national. Nous, on n'a pas évolué, mais on a démarré au tarif maximum au départ. Oui,
mais, je voulais préciser par rapport à ces taxes locales, il y a aussi qu'on n'a pas voulu augmenter parce qu'il y a la situation sanitaire qui a pénalisé une bonne partie de nos commerçants, parce qu'il y avait les fermetures, tout ça. Il y a pas mal de demandes aussi d'exonération où étaient... décidé en commission voilà, de ne pas les faire payer une partie, mais après, les grandes enseignes comme Style Leclerc, qui n'ont pas perdu des chiffres d'affaires, ne seront pas exonérées. Donc, ça a été décidé aussi en commission. Je tiens quand même à préciser qu'il y a les services d'urbanisme est vraiment vigilant sur la pollution environnementale, où il y a pas mal des affiches. Il fait un moment qui était sur la route, qui a été visible, qui n'était pas très jolie, entre guillemets, où il y avait pas mal de négociations pour dire de les enlever. Il y a certaines choses qui ont proliféré, mais parce qu'il y a certains commerçants, nouveaux commerçants, ont toléré de mettre quelques affiches pour vraiment leur publicité, pour faire une publicité, mais il y a une limite à tout aussi. Et donc, avec la révision de cette... Mais on va être vigilant aussi sur certaines choses, mais ce sera appliqué pour tout le monde. Et donc là, la décision, c'est de ne pas l'augmenter pour ne pas pénaliser aussi nos commerçants.
Oui, parce que tout à l'heure, lorsque je vous parlais de ce qui était sur les magasins et tout, mais s'il y a une préenseigne sur un fossé, elle est prise en compte aussi. Donc ça se cumule dans les mètres carrés. Monsieur Grenier.
Oui, merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, moi, juste pour corroborer ce qui vient d'être dit de la part de Monsieur le maire ainsi que d'Esther et de Mireille, pour avoir fait partie de la commission il y a 2 ans déjà, ou 3 ans, je sais plus, moi d'abord, je voudrais me féliciter la commission pour le travail accompli, parce que quand même, vous aurez noté que on a éradiqué toutes les verrues visuelles qui existaient encore il y a peu aux entrées de ville. Je pense singulièrement aux abords du pont Notre-Dame et de la chapelle Notre-Dame-du-Pont, mais également à l'entrée de Saint-Junien côté Saint-Amand. Donc ça a permis quand même de faire beaucoup de ménage en ville. Et pour revenir sur l'histoire des tarifs, il est normal que les gens payent et que les grandes surfaces payent. Mais effectivement, comme l'a dit Monsieur le maire tout à l'heure, on a été vigilants, je pense, et parce que alerté aussi par les commerçants, et je pense notamment aux petits artisans qu'il était normal de protéger à minima. Et je me souviens avoir fait partie de la délégation qui a reçu notamment l'association Saint-Junien Grand Ouest. Les grandes enseignes ont parfaitement compris le pourquoi de cette taxe, et d'ailleurs ils s'y sont pliés de bonne grâce, pour, on va dire, pour la plupart. Mais je pense notamment à certains artisans, les cycles Pinot, pour pas les nommer. Ben, Pinot, il est tout seul à travailler, sauf que, ben voilà, il a un grand bâtiment, il a une grande surface, et il est normal de protéger ce genre d'activité artisanale, d'où cette tarification-là. Mais je veux préciser quand même que tout cela a été extrêmement réfléchi, extrêmement pensé, et que rien n'est improvisé. Merci.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres, monsieur d'Auvergne? Ah, pardon. Monsieur d'Auvergne et Madame Chabot.
Je vais être assez bref. Juste en discuter là sur cette. Vous m'entendez? Juste une petite réflexion qui me vient juste à l'instant. Là, je me demandais sur la tarification, si on pouvait pas, parce que là, bon, elle est imposée, cette tarification, si on pouvait pas la rendre plus incitative, justement. Je parle de la publicité lumineuse. Savoir si on ne pouvait pas faire inciter justement les artisans et les commerces donc à éteindre leur enseigne lumineuse la nuit, voilà, et donc rendre plus incitatif cette tarification pour les mener justement vers cette démarche d'extinction de leur enseigne lumineuse. Donc moi, je me félicite de ce qu'a engagé la mairie sur la question de la pollution lumineuse. Donc si les commerçants pouvaient aussi jouer les jeux, et si on les invitait aussi, nous, on les aidait aussi à jouer le jeu. Donc je trouvais que c'était une réflexion que je voulais vous soumettre simplement.
Alors juste, oui, par rapport aux panneaux lumineux, on n'est pas dans le même cadre de publicité. C'est-à-dire que vous avez, alors il faudrait la rechercher parce que je ne l'ai plus en tête, hein, mais vous avez un autre texte sur la pollution lumineuse, dont on a avisé les commerçants et qui normalement devrait les obliger à éteindre à une certaine heure le soir. Je ne l'ai pas en tête, hein, je ne veux pas vous la donner, mais à éteindre. D'ailleurs, si vous faites le tour, vous constaterez que certains commencent à l'appliquer, mais ce n'est pas du tout le même texte et ce n'est pas du tout le même référencement. Là, on est vraiment sur de la publicité extérieure qui sont panneaux d'affichage, publicité écrite. Voilà. Pas tout ce qui est nuisance, enfin éclairage. Là, il y a un autre texte, doit être, je pense, un texte de loi d'ailleurs, qui incite, je ne veux pas m'engager à dire qu'il oblige, mais qui incite à éteindre à une certaine heure, normalement, les commerces, les panneaux lumineux que vous avez en ville. Et ça, c'est sous la responsabilité, normalement, des services préfectoraux. Mais on pourra rechercher le texte, et puis d'ailleurs, ça peut être travaillé en commission à ce niveau-là. Madame Chabot.
Une petite correction. Je vous ai dit que l'année dernière, ça n'avait pas été augmenté. En fait, c'est faux. L'année dernière, on avait augmenté que les numériques et on les avait mis au plafond. Là, cette année, on n'a touché à rien. Et pour avoir regardé cette semaine là, des dossiers de gens qui font des demandes d'autorisation d'enseigne, ils ont, enfin, dans le CERFA qu'ils remplissent, il y a justement une ligne qui leur demande à quelle heure ils éteignent. Et tous, ils mettent qu'ils éteignent entre 23h et 6h, comme ce que fait la ville. Et ça, je ne suis pas sûre qu'ils l'écrivent sur leur demande. Après, je ne suis pas sûre ni qu'ils le fassent, ni qu'on ait les moyens de le vérifier.
Bien, mais ça peut être un travail de commission. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais comme il n'y a plus de couvre-feu, maintenant, on vous proposera un tour de ville à minuit pour voir qui est-ce qui a éteint et qui est-ce qui est resté allumé. Mais vous pourrez constater que malgré tout, avant qu'il y ait le couvre-feu, même des fois pendant le couvre-feu, puisque je vais sur les accidents, vous pourrez constater que malgré tout, il y a beaucoup plus de commerces maintenant qui, à partir de 23h, sont éteints pour une raison toute simple, c'est que quand on éteint nos lumières, si le commerce reste allumé, ça se voit. Quand les lampadaires étaient allumés et que le commerce était allumé, bon, on faisait pas trop la différence. Maintenant, ça se voit. Donc certains font attention et éteignent beaucoup plus qu'ils n'éteignaient auparavant. Monsieur Vacheux.
Oui, non. Moi, je rejoins ce qui a été dit là. Si effectivement le dossier est dans les mains de la préfecture, bon, dont acte. Si effectivement, par contre, la municipalité pouvait, en ce sens, avoir l'action qui est soulignée là, et encore une fois que je rejoins, on peut imaginer par exemple une double tarification, et donc une tarification de nuit dissuasive, c'est-à-dire à partir d'une certaine heure, une augmentation conséquente effectivement de la tarification, qui déjà, de fait, peut-être encouragerait quand même le dit commerçant à respecter son engagement, mais encore une fois, à condition d'en avoir la possibilité, ce que je ne... Voilà.
Alors... Après, moi, je dis il faudra le travailler en commission. Après, il faut aussi faire des choses qu'on soit capable d'aller vérifier. C'est-à-dire que... mais je crois qu'il y a... Je suis à peu près certain qu'il y a des recommandations ou un texte de loi, je ne sais pas, à un moment donné, sur la pollution visuelle et qui incite à éteindre à une certaine heure. Ça, je suis à peu près sûr. Donc après, on peut peut-être jouer là-dessus. On ne pourra sûrement pas jouer parce que la publicité extérieure, c'est très compliqué de jouer sur... Enfin, on est obligé de rester dans le cadre législatif. Par contre, il y a peut-être d'autres choses à côté qu'on pourra faire. Bien, je crois que je ne l'ai pas fait voter. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre ? Donc, adopté à l'unanimité. Notre collègue Laurence Chazelas pour les remerciements.
Les remerciements sont adressés à la municipalité pour l'octroi d'une subvention par l'association Shabbat d'Antra, l'association des retraités et personnes âgées, le planning familial 87, les amis de la bibliothèque Espace Panazo de Saint-Martin-de-Jussac, les pupilles de l'enseignement public et l'ensemble des buralistes de Saint-Junien remercient M. le maire pour son intervention auprès de la Française des Jeux.
Alors l'intervention auprès de la Française des Jeux... on n'a pas gagné au loto. Non, c'est simplement que la Française des Jeux envisageait de déplacer ses structures pour les mettre dans les grandes surfaces. Donc, à la demande des buralistes de Saint-Junien, donc, je suis effectivement intervenu auprès de la Française des Jeux en leur soulignant qu'il nous paraissait important que le cœur de ville puisse bénéficier de la Française des Jeux, ou tout au moins de la présence de la Française des Jeux. Après, chacun fait comme il veut, s'il veut aller jouer ou pas jouer. Mais en termes d'attractivité pour les buralistes, c'est quand même un buraliste ou bar tabac, suivant ce qu'ils font, mais c'est quand même un plus. Donc ça, c'était une volonté de la Française des Jeux au niveau national, certes, mais qui était discutée aussi au niveau départemental, de déplacer vers les grandes surfaces ou vers l'extérieur, ou vers les zones commerciales, ça peut être famille, village ou autre, leur lieu de vente de billets, de loterie et compagnie. Donc les buralistes nous avaient alertés là-dessus, et notamment les buralistes de Saint-Junien. Moi, je m'occupe de ceux de Saint-Junien, moi, je m'occupe des siens. Voilà. Oui, monsieur Granet, monsieur Dauvergne.
Oui, juste pour préciser, monsieur le maire, concernant cette affaire. Alors oui, les buralistes de Saint-Junien remercient l'intervention de Pierre Allard, mais pas que, puisque les buralistes de Saint-Junien, ou certains d'entre eux en tout cas, m'ont confirmé que c'est l'ensemble des buralistes de la zone de Chalandie, c'est-à-dire Oradour-sur-Glane, Saya, Saint-Brice et Saint-Victurnien, qui font part des remerciements au maire de Saint-Junien pour être intervenu de manière efficace et faire reculer la Française des Jeux dans cette velléité d'ouvrir un point de vente à Hyper-U. Parce que ce qui a été défendu de notre côté, et là je salue l'intervention de notre maire à cet égard, voilà une véritable action politique pour défendre le petit commerce et le commerce de centre-ville, puisque d'un côté l'État met des fonds relativement importants pour financer des redynamisations ou revitalisations de cœur de ville ou cœur de bourg, et de l'autre côté l'État actionnaire de la Française des Jeux laisse la politique de la Française des Jeux s'appliquer, c'est-à-dire délocalisation des points de vente des centres-bourgs et des centres-villes vers les grandes surfaces. Donc ça nous a paru absolument inadmissible et même scandaleux. Et donc là, l'intervention de notre maire a été évidemment salutaire et efficace, puisque la Française des Jeux, ne souhaitant pas se faire une mauvaise publicité, a immédiatement retiré ce projet, en tout cas pour le moment. Donc ça reste une affaire à suivre. Merci.
Merci, monsieur Dauvergne.
Bon, je suis assez surpris quand même cette démarche de la Française des Jeux, parce qu'elle s'est quand même engagée, nous, au niveau des services fiscaux, donc dans la démarche de partenariat qui existe sur les moyens de paiement de proximité. Donc je trouve ça assez curieux de leur part. Et en même temps, c'est vrai que je rejoins monsieur Granet de votre démarche donc auprès de nos buralistes. Donc ça va à l'encontre donc des engagements qu'ils ont pris au niveau national donc sur les paiements de proximité.
Tout
à fait.
Tout à fait. C'est d'ailleurs ce qu'on leur a rappelé à un moment donné dans le courrier qu'on leur a adressé en disant qu'il y avait des engagements qui avaient été pris et que on ne pouvait pas revenir constamment sur des... Enfin, je veux dire que, certes, je vais le dire de manière un peu triviale, on peut faire du business, mais pas à n'importe quel prix, quoi. Voilà. Oui, monsieur Quando. Monsieur Quando, monsieur Gandois, je n'ai pas vu, excusez-moi.
Mais je voudrais attirer votre attention, puisque nous sommes dans une discussion politique. Nous sommes en train de discuter des points d'implantation d'un processus commercial qui a, il y a une reconnaissance, je crois qu'il y a beaucoup de travaux de sociologues, de psychologues sur les questions qui touchent à l'addiction aux jeux d'argent et notamment aux gens les plus modestes qui se font piéger par l'achat de ces petits billets qui vous permettent de faire fortune tout de suite. Donc je vous invite à réfléchir et à préparer pour demain le combat contre cette manipulation des esprits qui consiste à puiser le reste souvent des porte-monnaies au nom d'une chance de gagner gros. Et nous sommes amenés, donc la Française des Jeux a fait faire des études, et effectivement pour améliorer ses marges, elle a tout intérêt à déplacer ses points de vente vers des lieux où le public se rend massivement. Il est vrai que, et les travaux, nous avions eu l'occasion d'en discuter un certain nombre de fois, montrent que les centres-villes ne sont plus attractifs. J'ai écouté mon collègue Thierry Granet, qui nous faisait remarquer il y a quelques instants, que nous devons conserver l'attractivité de nos centres-villes. Je souhaiterais que nous réfléchissions à la possibilité de faire revenir nos concitoyens vers les centres-villes avec un aménagement ou un intérêt pour des produits d'une autre qualité que ces pseudo billets, souvent très chers, qui nous attirent uniquement par ce désir de faire fortune. Ce désir de faire fortune, quelque part, d'un point de vue idéologique, me semble en opposition complète avec les valeurs de la gauche, les valeurs écologistes, mais nous sommes en train de discuter finalement sur l'implantation de quelque chose qui n'intéresse que la finance, que la haute finance, que ceux qui veulent ramasser beaucoup d'argent. Donc je profite de cette opportunité, puisque nous sommes là à discuter notamment de l'implantation des lieux de jeu, et qui, je le rappelle, renseignez-vous, deviennent pour beaucoup d'entre nous une addiction qui souvent prive des quelques euros qu'il y aurait à disposition pour manger correctement. Je pense que là, nous avons un vaste débat politique à prendre en compte et que je suis surpris finalement que nous discutions seulement de ces questions sous l'angle de « il nous faut défendre nos commerçants ». C'est vrai, mais je préférais qu'on les défende parce que la qualité des produits qu'ils auront dans leur commerce de centre-ville seront d'un avantage évident pour les acheteurs plutôt qu'à ces sous-produits qui sont souvent les grandes surfaces. Je pense qu'il vaudrait mieux que l'on réfléchisse à intervenir auprès de nos commerçants pour qu'ils aient effectivement des produits de qualité à des prix qui restent comparables pour les modestes moyens d'une grande partie de nos concitoyens. Et je pense que le débat, nous pourrions essayer de le faire évoluer vers une interrogation politique sur la qualité de la vie, sur la disparition de cette manipulation des imaginaires à travers l'idéal de faire fortune, de gagner des millions en dépensant quelques dizaines d'euros. Je pense que là, nous avons effectivement un terrain sur lequel nous pourrions, nous, parti de gauche, parti écologiste, réfléchir. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Je remercie M. Coindeau. Alors, c'est vrai qu'on apparaît au plus pressé, c'est-à-dire faire en sorte que ça reste dans nos commerces de proximité, justement pour éviter que ça aille dans le grand public. Mais demain, on pourra réfléchir à la suite. Et si j'ai bien compris, bon, je ne voudrais pas que tu sois frustré de ne jamais avoir gagné à la loterie, mais on pourra y réfléchir, Lucien. Il n'y a pas de souci. Après, sur le fond, je crois que c'est une autre démarche. Je crois qu'on a des commerçants en cœur de ville, et d'ailleurs un certain nombre qui se sont installés de nouveau entre la mercerie, les merceries et autres. Je ne suis pas là pour faire leur publicité, mais je crois qu'ils ont des produits de qualité qui rendent hommage à leur savoir-faire, d'ailleurs. Après, et il appartient aussi, et ça sera le travail, et c'est ce qu'on a dit il y a quelque temps, du manager de centre-ville, de faire en sorte de coordonner tout cela pour que le centre-ville, il est attractif d'une part par rapport à ses commerces, il peut être aussi attractif par rapport aux animations qu'il peut y avoir en centre-ville. Et pour qu'il y ait des animations aussi qui permettent d'être attractives, il faut qu'il y ait un travail de fond qui soit mené en corrélation avec les commerçants et l'ensemble des commerçants. Et moi, je n'exclus pas non plus les zones industrielles, les zones commerciales. Je crois que c'est un tout à un moment donné, et qu'il peut y avoir un travail qui soit mené à ce niveau-là. Monsieur Dandois.
Oui, je voulais simplement profiter des remerciements pour justement remercier les services pour leur collaboration dans le cadre du projet de Camping Car Park, qui a vu son aboutissement le 12 mai 2021, date de l'ouverture de notre camping. Je compte sur les directeurs des différents services pour faire passer ce message. Je ne nommerai pas tous les services de peur d'en oublier, mais je peux citer par exemple le CTM, le service sport manif, la com, la créa, l'informatique, j'espère que j'en ai pas oublié dans le lot. Une fois de plus, preuve est faite que le travail réalisé par les services est efficient et efficace. Encore merci à tous les agents impliqués.
Merci, donc les directeurs transmettront. Moi, pour ma part, donc vous avez dans vos dossiers les décisions qui ont été prises depuis le 27 mai 2021, et je crois que M. Granet avait une dernière petite chose.
Ah oui, oui.
Oui, allez-y. Madame Chazelle, je ne vous avais pas vu, allez-y.
notre proposition de recycler les masques a été acceptée, nous en remercions. Je voulais juste savoir en fait quelles seraient les modalités de la mise en œuvre. Est-ce que ça serait à travers de commissions, de groupes de travail, et est-ce qu'il y avait un petit peu un échéancier
Alors on a été beaucoup plus loin que ça, si vous voulez. Ça a fait l'objet d'une réunion de travail du bureau de la communauté de communes, puisqu'on s'est dit que finalement, les masques, ils n'avaient pas de territoire, ils faisaient comme tout le monde. Et donc, il y a un travail qui a été mené de concertation lundi de cette semaine, en bureau de communauté de communes, pour faire travailler une petite start-up, l'association d'une start-up qui est sur Saint-Junien, qui devrait permettre d'installer des bacs, c'est des cartons, hein, de récupération des masques. Donc là, les communes, on est en train de faire le tour de l'ensemble des communes. Et ensuite, ces cartons permettraient de récupérer, je crois, c'est 500 masques par carton, enfin bon, dans le cadre de l'agenda 21, oui, de la communauté de communes et du PCAET. Et ensuite, ils seraient recyclés par une entreprise qui fabriquerait éventuellement des récupérateurs de mégots ou cendriers pour soins. Et donc ça, on verra, on est en train de... La réflexion est en cours, là, hein, au niveau de cette start-up. Mégots qui seraient récupérés dans les bars et dans les lieux comme ici par exemple, et qui permettraient ensuite d'aller fabriquer du mobilier avec des matériaux de récupération, puisqu'avec les mégots, on peut arriver à fabriquer des mobiliers. Alors ne me demandez pas comment, parce que je ne suis pas technique à ce point-là, mais voilà. C'est-à-dire que c'est un cercle que l'on fait de l'économie circulaire dans le cadre de l'agenda 21. Donc les communes sont en train d'être... questionner par rapport au coût, parce qu'il y a quand même un coût à un moment donné, et si tout fonctionne bien, il pourrait y avoir déjà une vingtaine de bacs qui prochainement pourraient être installés aux alentours. Enfin, quand je dis une vingtaine de bacs, c'est en comptant les 13 communes, enfin les 12 communes, parce qu'il y en a une qui est partie avec un recyclage avec la Poste, hein, donc il reste 12 communes et des structures telles que les centres techniques municipaux, intercommunaux, bref, où on a beaucoup de monde. Centres culturels, ciné-bourses, des structures de ce type-là. Voilà.
Également aux écoles, il y a beaucoup de masques qui traînent.
Alors, la difficulté qu'on a avec les écoles, si vous voulez, c'est que pour l'instant, ce sont des cartons. Et les cartons, on ne peut pas les laisser à l'extérieur. On est obligé de les avoir à un moment donné à un endroit à l'intérieur. Donc ça, c'est une discussion à avoir avec les directeurs d'école. Mais comme les écoles s'arrêtent là maintenant, on n'a pas prévu tout de suite les écoles. Après, on aura une discussion, parce qu'on attend de voir quelles seront les contraintes qui vont nous être données, mais à la rentrée, on pourra très bien installer dans les écoles, les collèges, à voir avec le département aussi, lycée, région. Voilà. Mais on voulait commencer à tester par les communes et surtout les salles comme celle-ci, ou les salles où il y a beaucoup de public qui passe. Voilà. Donc c'est en cours. Ça permettrait de faire travailler une start-up qui est sur Saint-Junien et qui a une association. Donc, je ne vais pas vous donner de nom pour l'instant parce qu'on attend que ça soit bien officialisé. Mais dès que ça sera bien prêt, bien lancé, vous aurez toutes les informations. Les 13 maires ont donné leur feu vert. Voilà. Monsieur Granet.
Oui, merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, c'est juste... une petite intervention très rapide, puisque le week-end dernier, nous avons eu la tristesse d'apprendre le décès de Gérard Fromanger, artiste, peintre, plasticien majeur dans la seconde partie du XXe siècle en France et dans le monde. Et Gérard Fromanger était un des piliers, un des représentants de la figuration narrative. Nous avons eu le grand bonheur et le grand plaisir, sous la houlette de Lucien Coindeau, en 2017, d'organiser une exposition Gérard Fromanger à Saint-Junien. Le bonheur plus grand encore d'accueillir Gérard Fromanger, qui est venu passer quelque temps avec nous, qui a rencontré les gens, que nous avons promenés un petit peu partout, qui a mangé des écrevisses sur les bords de Glane. Bref, c'était un homme Très engagé dans la voie des idées progressistes, qui appréciait en ce sens le travail qui est mené ici à Saint-Junien depuis longtemps déjà. C'est un artiste qui a une œuvre absolument richissime, qui est présent un peu partout dans le monde. C'est véritablement un grand monsieur de l'histoire de l'art français qui disparaît. Nous avons eu la chance de l'accueillir en 2017, l'année qui a suivi la grande exposition rétrospective qui lui a été consacrée à Beaubourg, à Paris, qui a drainé des dizaines de milliers de visiteurs et ce qui a rendu du reste beaucoup de gens jaloux que nous puissions l'avoir ici. Et là, je rends hommage à Lucien Coindeau, puisque c'est grâce au carnet d'adresses de notre collègue Lucien que nous avons pu approcher Gérard Fromanger. Et puis, de fil en aiguille, grâce à Gérard Fromanger, qui a beaucoup apprécié Saint-Junien et beaucoup apprécié le travail accompli ici à Saint-Junien, avec les services, je pense à Céline Mappa, je pense à tout le service culture et patrimoine qui était sur le pont, Gérard a un petit peu envoyé partout où il passait une image très positive de notre ville, une image très positive de ses habitants, puisque grâce à lui, nous avons pu avoir après Jeff Aérosol, un des grands artistes de l'art urbain qui est venu également à Saint-Junien. Et grâce aussi à Gérard, et ça on le sait, et Lucien le sait mieux que quiconque, de grands artistes internationaux connaissent maintenant Saint-Junien. À nous de les séduire pour qu'ils viennent s'y produire. Donc voilà, je souhaitais rendre hommage à Gérard Fromanger ce soir, qui nous a quittés à l'âge de 81 ans, il allait avoir 82 ans, je crois. C'est quelqu'un qui va manquer dans le paysage artistique français et dans toute la figuration narrative et dans ce mouvement extraordinaire mondial. Voilà, merci mes chers collègues.
Merci. Pour ma part, l'ordre du jour étant épuisé, je n'ai pas d'autres questions, donc je lève la séance. Bonne soirée.